Coué-coué, Madame Perron?
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, vous?
Avant qu'on parle de la décision en tant que telle, on va quand même prendre le temps de te présenter. C'est une habitude qu'on prend par chez nous. Donc, vous êtes de quelle communauté et vous faites quoi dans la vie exactement?
Bien sûr, donc je suis membre de la communauté de Gunnysadage. Donc, je suis Gonyogéhaga, Mohawk, et je suis avocate qui pratique principalement auprès des peuples autochtones, comme vous l'avez si bien dit, pour le cabinet Dionne Schultz. Je travaille à Dionne Schultz comme avocate depuis 2021, mais je travaille en fait au cabinet depuis 2020, puisque j'étais étudiante et étudiante stagiaire, en fait, avant d'être avocate à Dionne Schultz. Et en même temps, je suis aussi coach pour l'Université d'Ottawa pour le concours Kawaskimo, un concours pan-canadien qui réunit plusieurs universités autour d'enjeux juridiques autochtones très intéressants.
Puis ce que j'ai pu un peu constater dans l'environnement du domaine du droit, il n'y a pas beaucoup de conseillers juridiques d'origine autochtone. Est-ce que je me trompe?
Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais on voit une émergence, on dirait, de personnes qui graduent en droit. D'ailleurs, je crois que l'année passée, quatre personnes ont gradué de l'Université McGill de la communauté de Ganawagé. Donc, c'est bien encourageant.
Et, bonjour Joël, ici Sophie Claude Miller. Dans le fond, est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui peut être un frein? Parce qu'on s'entend que le droit, c'est quand même un cadre très légal. On sait qu'il faut faire quand même beaucoup d'études, beaucoup de mémorisation. Pourquoi est-ce que vous pensez que les Autochtones sont peut-être pas nécessairement attirés tant que ça vers les professions de droit?
C'est une excellente question. Puis, je pense que la réponse peut prendre racine dans nos valeurs, puis dans nos traditions qui sont souvent opposées ou parfois contradictoires à certains principes en droit canadien. Donc, quand j'étais étudiante à l'université, j'étais également mentor pour les étudiants autochtones au programme de droit civil. Et puis, je pouvais voir auprès de certains étudiants issus de d'autres communautés une certaine incompréhension quant à certains principes, notamment en termes de droits contractuels, donc les obligations qu'on a lorsqu'on signe un contrat, c'est pas nécessairement les mêmes dans certaines communautés, puis dans le droit canadien ou le droit québécois pour parler strictement du droit civil. Donc, ça peut avoir un certain poids, les valeurs, puis les manières dont on régularise nos systèmes traditionnels.
Oui, parce qu'on s'entend que c'est quand même le droit et la cour en tant que tel, c'est quand même un cadre assez rigide, pardon. Moi, je regarde, ça me fait penser à ma communauté. Avant la signature de la paix des braves, les cris, on n'avait pas d'avocat cri avec nous. Et avant la signature, le gouvernement s'est présenté avec leur avocat. Et nous, on a dit, oh, attendez, attendez, on va aller se procurer un autre avocat. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé Roméo Saganache comme avocat. Et après, on est revenu, puis on a dit, OK, on a formé notre avocat, il va parler avocat avec votre avocat, là, finalement. C'était comme vraiment par la force des choses. Je pense que Roméo devait être intéressé par des formations comme ça, mais vraiment, c'est la circonstance qui a fait qu'il a poursuivi là-dedans pour être vraiment nous représenter. Et toi, Joël, personnellement, qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers le droit?
Au départ, en fait, dès ma jeune enfance, dès l'âge de 10 ans, le droit m'intéressait. Je disais en fait que je voulais être juge à l'âge de 10 ans, mais j'ai compris que c'était impossible de tout de suite devenir juge, qu'il fallait devenir avocat avant, donc faire 10 ans de pratique pour ensuite pouvoir devenir juge. Mais le droit m'intéressait juste pour le côté peut-être psychologique derrière le droit. Et puis, en fait, naturellement, les enjeux autochtones ont toujours été proches de moi, m'ont toujours intéressée. Donc, j'ai en fait décidé de joindre mes deux intérêts, donc mon intérêt pour la justice, puis mon intérêt pour aider en fait ma communauté ou les peuples autochtones pour en fait devenir avocate en droit autochtone.
Maintenant, parlons un peu de ce qui. J'imagine aussi, il y a les traditions juridiques autochtones qui embarquent un peu dans ton intérêt là-dessus, là-dedans?
Oui, les traditions juridiques autochtones sont extrêmement importantes, puis à mon avis, souvent oubliées dans le système canadien. Et je trouve justement que c'est un bon pont avec la décision White et Montour, parce qu'on vient de donner une certaine valeur supplémentaire aux traditions juridiques dans cette décision-là, ce qui est extrêmement intéressant, puis quand même un progrès, à mon avis, dans la jurisprudence.
Mais concrètement, c'est quoi ça? Ça veut dire un système juridique traditionnel autochtone?
En fait, chaque nation a son système propre avec lequel il régularise les relations entre les personnes. Et ces différents systèmes-là sont ancrés dans des différentes sources de droit. Donc, par exemple, chez plusieurs peuples autochtones, ça va être les récits de la création qui vont nous inspirer des principes juridiques de responsabilité, par exemple, envers les êtres. Un principe qu'on peut dire horizontal de respect mutuel. Puis ça, c'est qu'est-ce qui est à la base de nos modes de vie, de nos manières de voir le monde. Puis c'est quelque chose qui peut être extrêmement différent de comment, en fait, au Canada ou au Québec, le système colonial vient régulariser ces relations-là. D'une manière qui peut être plus verticale d'un certain sens, avec plus d'imposition, disons.
OK. Je sais qu'on parle beaucoup des juges et des avocats dans le système colonial, mais qu'en est-il au niveau des systèmes juridiques traditionnels autochtones à qui on donne l'autorité de pouvoir, par exemple, résoudre des conflits ou ces choses-là?
C'est une excellente question parce que les traditions, puis en fait, il faut aussi voir chaque nation comme étant distincte et ayant son propre système avec des autorités différentes selon leurs propres traditions et coutumes. Mais comme on a pu voir avec la loi sur les Indiens, il y a eu la formation des conseils de bande, qui est une autorité constituée dans les communautés souvent. Et en plus, on a des autorités traditionnelles qui sont davantage issus des traditions juridiques des communautés. Donc, ça peut devenir un peu politique à un certain point, à savoir qui devrait prendre les décisions, mais d'une manière ou d'une autre, les deux existent actuellement. Puis, c'est à mon avis, à chaque communauté de décider comment il aimerait que les traditions soient gérées.
Puis, j'imagine qu'au niveau aussi des nations, c'est quand même des systèmes qui sont différents. Là. Si on compare, par exemple, à la nation Mohawk à celle de la nation Cree.
Définitivement.
Mm-hmm.
Les récits sont différents. Les valeurs aussi à la base de ces récits-là sont différents. La terre sur laquelle on a grandi puis on a appris est différente. C'est tous des facteurs qui influencent notre manière de voir le monde et de se réguler.
Maintenant, avant qu'on tombe un peu dans la décision en tant que telle, c'est quand même une grosse décision qu'on a eue récemment dans la décision concernant les deux Mohawk, White et Montour. Mais avant qu'on y aille là, il n'y a pas eu d'autres précédents qui concernent une décision de telle envergure lorsqu'on regarde la décision White et Montour là, du jugement Bourque, là.
Les conclusions sont très uniques. C'est un jugement très innovateur en termes de droits autochtones. C'est certain que ça concerne les droits ancestraux et issus de traités, des droits constitutionnels qui ont déjà été traités dans le passé. Mais c'est vraiment une décision innovatrice qui vient changer un peu l'état des choses au niveau du droit.
Parce que on peut pas... Parce que c'est une décision, on touche quand même la décision d'une Cour suprême. Là. On ne peut pas, du jour au lendemain, changer une décision que la Cour suprême a elle-même confirmée ou prise dans son travail. Là. C'est difficile.
Non. Ça, c'est un enjeu aussi. C'est que la Cour supérieure a, à un certain point, changé les critères pour prouver un droit ancestral. En fait, un droit constitutionnel des peuples autochtones. Et puis, il ne faut pas oublier en droit que les décisions de la Cour suprême, qui est la Cour la plus haute du pays, sont sont en fait imposées ou plutôt les cours inférieurs sont liés par ces décisions-là.
Mm-hmm.
Donc, un tribunal inférieur à la Cour suprême ne pourrait pas tout simplement changer l'état du droit qui a été décidé par la Cour suprême. Des critères spécifiques doivent être répondus. Puis, en fait, il doit y avoir un contexte particulier qui change le contexte juridique. Et en ce sens, pour la décision de la Cour supérieure dans le dossier Montour et White, la juge Bourque a en fait décidé que l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones changeait le contexte législatif et demandait une nouvelle interprétation de ce texte et aussi à la lumière des connaissances qui ont été issues depuis la création de ce texte, en fait, qui date de 1996, de l'arrêt Van der Piet. Donc, il y a eu la Commission royale sur les peuples autochtones en justement en 1996, si je ne me trompe pas,
mm-hmm.
La Commission Vérité et Réconciliation en 2015, l'enquête sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues. Donc, il y a eu beaucoup de rapports, beaucoup de connaissances qui ont été apportées à la société, en plus de la Déclaration des Nations Unies, pour revoir ce texte-là.
Juste pour mettre l'audience en contexte, là, dans le fond, la décision là, qu'on parle de White et Montour, c'est Derek White et Hunter Montour, qui sont des membres de la nation Mohawk de Ganawagé. Ils avaient été reconnus coupables d'infractions criminelles liées à l'importation de tabac sans paiement des droits prévus sur la loi d'assises. Et donc, là, maintenant, cette décision-là leur donne raison. Donc, ils n'ont pas besoin de payer ces dits paiement-là sur la loi d'assises. Et donc, ils ont droit à leur développement socio-économique libre en territoire Mohawk. C'est bien ça?
Très bien résumé, oui.
Ben, c'est sûr que là, je parle on discute avec deux avocats, donc vous êtes bien au fait de ce jugement-là. Mais je voulais juste être certaine que notre audience comprenne bien de quoi il s'agissait. Parce que là, on parle de droit sur le tabac, mais est-ce que ça va avoir une incidence sur d'autres droits autres que les droits de vente, cette loi-là, Joël?
Cette décision concerne précisément l'importation du tabac puis les droits de la loi sur l'assise, mais il y a un potentiel pour le futur, évidemment. Je ne pourrais pas m'avancer sur à brûle pour point sur quel changement serait possible en vertu de cette décision. Mais il y a définitivement un potentiel parce qu'il y a un droit, comme vous l'avez dit, un droit ancestral au développement économique qui a été retenu par la Cour. Et puis, ce droit-là engendre une obligation de la Couronne de consulter et d'accommoder la nation autochtone, les Mohawks de Ganawagé, pour la création de lois qui encadrent l'importation du tabac. On parle précisément de cette décision-là. Donc, peut-être que le même cadre pourrait s'appliquer à d'autres situations en termes de développement économique.
Mmh. Nous sommes de retour avec Maître Joël Perron-Thibodeau de la firme Dion Schultz pour discuter de l'importation de tabac à Ganawagé, l'importante décision de la Cour supérieure en termes de droits autochtones, la décision White-Montour.
Maître Perron, comme nous avons dit un peu plus tôt dans l'émission, c'est quand même une décision très, très importante. On aborde quand même, vous avez dit tantôt, deux points importants, soit celui du développement économique comme droit ancestral, puis la reconnaissance des traités. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à profondeur ce qu'est cette décision-là, puis en quoi est-ce que ça touche un peu, ça pourrait éventuellement aussi changer le décor dans le domaine du droit en ce qui concerne les droits des peuples autochtones?
Oui, c'est une décision qui est très très large, en fait très longue, environ 400 pages. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais pour résumer, comme vous dites, il y a deux volets principaux, selon moi, la reconnaissance d'un traité, en fait la reconnaissance de l'applicabilité d'un traité datant du 17e siècle et la reconnaissance du droit ancestral à, au développement économique. Au niveau de, du traité, en fait, c'est la reconnaissance du Covenant Chain, ou on pourrait dire la chaîne d'alliance en français. La Cour reconnaît ce, ce traité comme un méta-traité, donc un traité de nature plutôt générale qui vient régir les relations entre les Haudenosaunee, donc la Confédération iroquoise, puis la Couronne. C'est un traité qui est un symbole d'alliance entre les parties, qui a été créé lors d'une période de conflit entre les Britanniques et les Français. Donc, c'est également aussi un traité qui peut se voir militaire en même temps. Donc, on vient reconnaître ici quelque chose d'extrêmement important, c'est les relations. La base des relations qui unissent les Britanniques puis la Confédération iroquoise. Donc,
c'est un méta-traité de paix et d'amitié, dans le fond, là.
Oui, c'est ça.
OK, parfait. Puis là, là-dedans, il y a quand même des procédures de résolution de conflits, là.
Exactement.
Okay.
Donc, ici, la Cour vient dire que ce traité-là prévoit des processus de résolution de conflits et que, justement, il devrait y avoir une certaine consultation à ce niveau à l'effet de justement, la législation, puisque ce traité-là, en fait, c'est un traité qui met sur un pied d'égalité les Britanniques et la Confédération iroquoise. Donc ici, c'est vraiment pour avancer de l'avant d'égal à égal dans une relation respectueuse. Donc c'est intéressant de voir ici la reconnaissance d'un tel traité qui date du 17e siècle et qu'on reconnaît son applicabilité qui est toujours importante aujourd'hui.
Il est toujours en vigueur, c'est ça?
Moi, ce qui retient mon attention, c'est qu'on est finalement reconnu d'égal à égal, alors que la loi sur les Indiens nous considère comme les pupilles de l'État. Donc, on est des enfants, on est des enfants au terme de la loi. C'est toute une avancée, là. C'est vraiment... c'est le jour et la nuit, là.
Complètement. Je suis d'accord que c'est vraiment un bel avancement. Puis dès le paragraphe 10, dès le début, la Cour reconnaît qu'on a maintenu une relation de nation à nation basée sur une solide diplomatie puis des relations commerciales économiques. Donc... Bon, est-ce qu'on a réellement maintenu une relation de nation à nation avec toutes les politiques coloniales qu'il y a eu dans le passé? C'est peut-être discutable, mais c'est reconnu aujourd'hui que les relations sont basées sur des traités qui sont valides, qui nous met en fait sur un pied d'égalité et de respect.
Ce méta-traité-là oblige un peu la couronne à vouloir trouver des résolutions de conflits avec la nation qu'on parle ici, là.
Oui. C'est ça, en fait, c'est au niveau de la régulation du tabac qui aurait dû être faite par le biais de consultation avec les Mohawks de Ganawagé.
Parce qu'il y a quand même des revendications territoriales tant chez vous à Ganawagé qu'à Ganawagé. Mais quand je pense, mettons, à la situation de 1990 à Ganawagé, d'avoir des traités comme ça, est-ce que vous pensez que ça peut faire que ça ne se reproduira plus ou ça n'a aucun rapport puis c'est une situation qui pourrait se reproduire à nouveau étant donné que les Ganihaga de Canastagi, comme ce qu'on avait Hélène Gabriel il y a deux émissions, puis justement on parlait du fait que le territoire est encore... il y a encore du développement beaucoup aux alentours, puis les limites territoriales se font de plus en plus poussées. Donc, est-ce que ça...
C'est une excellente question. Puis, c'est quand même... en fait, chaque situation doit être analysée en soi. En fait, chaque situation est unique. Et au niveau du développement d'entreprises ou de développement résidentiel sur les territoires traditionnels des peuples autochtones, c'est sûr que il y a beaucoup de conflits à ce niveau-là. Je ne sais pas si cette décision va avoir un impact. Je n'ai pas analysé la question à cet effet, mais définitivement, au niveau de la réglementation et la législation, le gouvernement va devoir sûrement être plus attentif au peuple autochtone, puis à son obligation de consultation avant de réglementer.
Pour terminer, il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on discute un peu de l'arrêt Vanderbilt qui a été comme carrément tossé par le jugement Bourque qui, elle, propose un nouveau test. Qu'est-ce que ce test-là, en quelques minutes, Maître Perron?
Oui, c'est une question qui est extrêmement intéressante selon moi parce que le test de Vanderbilt de 1996, en fait, c'est de faire reconnaître un droit ancestral par une pratique, une tradition, une coutume qui est une partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone. Et cette pratique-là doit remonter à une date antérieure au premier contact avec les Européens, en plus d'être continuée dans le temps. Donc, on gèle nos droits dans le passé, avant le premier contact, avant les peuples européens. Et puis, cette pratique doit avoir été continuée. Puis ça, c'est extrêmement problématique, non seulement parce que ça gèle nos droits, mais également parce que certaines pratiques n'ont pas pu être continuées en raison des politiques coloniales qui ont empêché les peuples autochtones de pratiquer leurs coutumes.
Puis le nouveau test propose maintenant trois étapes.
Exactement, trois étapes. Donc, en premier lieu, on doit identifier le droit collectif revendiqué. Donc, ici, la Cour a déterminé que c'est le droit des demandeurs de se développer économiquement, donc à une échelle assez large. Ensuite, la deuxième étape, c'est de prouver que ce droit-là qui est revendiqué, donc le développement économique, est protégé par les traditions juridiques de la nation. Donc, en résumé, ici, la Cour vient dire que c'est un droit qui est assez générique, le développement économique, qui serait présumé faire partie du système traditionnel d'une nation parce que c'est inhérent à la prospérité, la dignité puis la survie d'une nation, le développement économique.
Puis le troisième test, ce serait, j'imagine, que ce droit, cet exercice-là doit être continu, doit être protégé?
Non, la troisième étape, c'est assez, comment dire, procédurale, si on peut dire. C'est de démontrer, en fait, que c'est pas procédural, mais c'est en fait de démontrer que la pratique, donc le développement économique, protège la coutume qui fait l'objet du litige ou la tradition qui fait l'objet du litige. Donc ici, on visait l'importation de tabac par M. White et M. Montour. Puis cette action est perçue comme favorisant le développement économique des Mohawks de Ganawagi. Donc la Cour détermine que les demandeurs ont effectivement été criminalisés dans l'exercice au droit au développement économique de la nation.
Ah, mais c'est clair que c'est tout un soulagement pour eux parce que c'est un litige qui traînait depuis plusieurs années. Et on pourrait en parler encore des heures. C'est fascinant, c'est vraiment intéressant, puis ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, je trouve. Encore une fois, un gros, gros niawa, Joël Perron-Thibodeau, Maître Joël Perron-Thibodeau. Bon succès dans votre carrière. On va continuer à vous suivre jusqu'à ce que vous soyez juge, certainement.
Si un jour ça arrive.
Ça va se lâcher comme ça, mes parents.
Niawen.
Niawa.